En ce 13 mai, c'est la fête à laquelle on ne pense pas tellement, c'est la première apparition de la Vierge à Fatima. Fatima a été remise en question par beaucoup de gens à travers les années, mais il n'en reste pas moins que Fatima demeure un des grands événements du XXe siècle, vous verrez tout à l'heure. Il suffit de rappeler que le magazine Time publiait le 30 décembre 1991 un article assez long sur la Vierge Marie, The Search for Mary, et on rapportait que chaque année, à Fatima, il y a 4,5 millions de pèlerins. 4,5 millions de pèlerins à Fatima, au Portugal. C'est aussi la fête aujourd'hui de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est André Hubert Fournet. Je suis allé à sa tombe. C'est le fondateur des Filles de la Croix. C'est dans un petit village, Saint-Pierre de Maillé, dans le diocèse de Poitiers. Et je suis allé prier sur sa tombe. C'était un homme qui est mort à 82 ans et qui était un drop-out, un décrocheur. Un garçon qui, même quand il est devenu prêtre, était plutôt mondain, mais qui a réussi à devenir un saint. Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Et il avait écrit dans un de ses livres, quand il était jeune, à l'école, ce livre appartient à André Hubert Fournet, bon garçon qui ne veut être ni prêtre ni moine. Et voilà, il est devenu prêtre, il est devenu un saint. Mais je vous en ai parlé l'an dernier, in extenso. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, il est question aujourd'hui de Notre-Dame de Fatima. C'est un sujet un peu difficile, mais je crois qu'il est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, et vous verrez. Je pense d'abord à ce 13 mai 1917. À ce dimanche où Lucia, Francisco et Jacinta, ou si on préfère Lucie, François et Jacinthe, ont été choisis par la Vierge comme témoins, des enfants. Oui, des enfants. Et l'histoire est simple, elle est belle. Hein? On sait que déjà en 1916, l'année précédente, les trois enfants avaient reçu la visite d'un ange. Nous raconte Lucie beaucoup plus tard, quand on lui demande de raconter ça, elle est devenue religieuse, mais plus tard elle va devenir carmélite, elle est carmélite. Elle raconte cette visite de l'ange en 1916 et je reste un peu pantois devant son récit. Elle ne semble plus trop savoir dans quel mois, mais il faut dire qu'elle était une enfant. Mais en 1917, la dame elle-même est venue de la part du ciel, disait-elle, la dame. Et ce premier entretien s'est terminé par une petite recommandation, disons un ordre doux et précis. Tout simplement, elle dit sur un ton très doux aux trois enfants, « Récitez votre chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. » C'était la guerre, 14-18. La guerre va se terminer un an et quelques mois plus tard, le 11 novembre 1918. Et là, nous sommes au 13 mai 1917. C'est le moment aussi de la révolution russe, la grande révolution communiste. Qu'est-ce que Lucie raconte à ce sujet? Elle dit, « La dame commença à s'élever calmement en direction de l'Est jusqu'à disparaître dans l'immensité de l'horizon. La lumière qui l'environnait la précédait comme pour lui ouvrir un chemin dans la multitude des astres, en sorte que nous avons parfois dit que nous avions vu le ciel s'ouvrir. » Je trouve ce texte très très beau, c'est très poétique, c'est magnifique, et ça décrit bien ce qu'elle croit avoir vu. Vous savez que nous ne sommes pas obligés de croire aux apparitions, c'est pas une obligation. Mais dans le cas de Lourdes et de Fatima, il est difficile de ne pas adhérer. En cette même année 1917, donc, la Vierge va revenir les 13 juin, 13 juillet, Le 15 ou le 19 août, je ne me souviens plus, ça dépend des livres, et le 13 septembre. Et des milliers de personnes ont fini par accompagner les petits voyants à Cova da Iria. Ça veut dire... Iria, c'est Irène, un endroit qui était en l'honneur d'une certaine Irène. Entre-temps, les enfants ont été appréhendés par la police. Ils ont été emprisonnés durant 3 jours, puis relâchés. Ils ont subi les mêmes persécutions que Bernadette Soubirous à Lourdes. Ça, je vous ai raconté ça de long en large, en 2 jours d'ailleurs. Les apparitions de Notre-Dame à Lourdes et la vie de Sainte Bernadette Soubirous. Alors, qui donc est cette dame? Elle se nomme, à un moment donné, je vous fais un résumé, je pourrais vous faire une émission sur Notre-Dame de Fatima qui durerait 5 jours, parce que c'est tellement extraordinaire. Alors, elle s'est nommée Notre-Dame du Rosaire. Elle est la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Le 13 septembre 1917, d'ailleurs, elle a fixé au jeune berger un nouveau rendez-vous qui sera le dernier pour le 13 octobre. Elle annonce que l'on verrait des prodiges dans le ciel. Je compte bien le 13 octobre, si je suis toujours là, vous raconter de long en large le récit tout à fait historique d'après les journalistes de ce jour unique dans l'histoire du monde, 13 octobre 1917, où des événements fantastiques surviennent au point que même des journalistes profondément anticléricaux, anticatholiques et anti-tout se sont convertis, ont été transformés, ont écrit des articles dans des journaux anticléricaux qui étaient absolument étonnants. Mais les grandes agences de nouvelles à travers le monde ont bloqué la nouvelle. Et on a pu voir que la nouvelle dans le New York Times a été publiée en page sportive, elle ne faisait même pas un pouce de longueur. Et alors donc, on verrait des prodiges dans le ciel. Et le 13 octobre, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, devant plus de 70 000 personnes, certains disent 50 000, d'autres disent 100 000. Le chiffre général des gens sérieux, etc., là, c'est 70 000. Alors, disons 70 000 personnes. Le soleil danse dans le ciel. Danse, il faut l'écrire D-A-N-S-E, et n'oublions pas d'y mettre des guillemets. Il danse pas vraiment, c'est évident. Il ne bouge pas vraiment, c'est évident. C'est une vision, une illusion d'optique, mais miraculeuse. Elle ne peut être que, à mon avis, que miraculeuse. Car le soleil danse donc dans le ciel portugais. Quand on lit un peu tout ce que l'on peut lire, comme j'ai fait depuis une semaine, sur cette manifestation absolument extraordinaire et qui est, à mon avis, divine, je ne résiste pas personnellement au désir d'y penser. Aujourd'hui, en l'anniversaire de la première apparition du 13 mai, j'y pense avec d'autant plus de ferveur, moi, et d'émerveillement que depuis mon enfance, cet événement m'a fasciné. Et j'y pense d'autant plus que beaucoup de gens, même dans l'Église, et des gens qui se prétendent sérieux, ne veulent rien entendre de ça. Ils affectent d'en rire ou de hausser les épaules. C'est très facile de ne pas lire les textes et de dire que ça n'existe pas. On en fait de même avec l'Linceul de Turin. On en fait de même avec les grands miracles de Lourdes. On en fait de même avec les évangiles. On en fait de même avec quantité de choses. Dès qu'elles sont chrétiennes, on hausse les épaules. On ne veut pas croire. Or, il faut méditer, je crois, simplement, très humblement, sans vouloir critiquer, en vouloir aux autres, il ne s'agit pas d'en vouloir aux gens qui ne veulent pas nous écouter. Je crois qu'il faut méditer cette obstination de Dieu qui veut convaincre depuis des siècles, sinon des millénaires, qui veut convaincre les croyants, son peuple, de prier et de vénérer celle qu'on appelle la Mère de Dieu, qui est la Mère du Fils éternel de Dieu, Jésus de Nazareth. Il multiplie, semble-t-il, avec beaucoup de prodigalité, une prodigalité absolument magnifique, des signes, des prodiges. Il les multiplie en vain, semble-t-il. Ces prodiges, j'ai été témoin de certains de ces prodiges, je les ai vus, je les ai touchés. Je ne peux pas dire que je ne les ai pas vus. J'ai eu cette chance de les voir. Mais je dois affirmer que ce que j'ai vu, je l'ai vu. Mais ça se heurte, ça, à une forme de fierté, sinon même d'orgueil matérialiste, rationaliste, à une certaine dureté de cœur de ceux que, même à l'intérieur de l'Église, sont peut-être, sans vouloir être trop méchant, sont peut-être nos scribes et nos pharisiens, mais il faut apprendre à recevoir la communion à leur côté, à leur parler avec respect. Ce sont nos frères, nos sœurs, qui ne veulent pas croire ces choses-là. En vérité, ce qui s'est passé, ça vaut vraiment que nous en parlions, hein? J'aimerais bien y réfléchir longuement avec vous. Parce que le monde actuel, il me semble, se trouve au bord d'un abîme. Et ce miracle solaire est vieux tout juste de 80 ans. C'est pas vieux, hein? Et si Notre-Dame du Rosaire, Fatima, qui promet à 3 enfants portugais un miracle, elle est même allée jusqu'à fixer le lieu, le jour et l'heure pour vaincre l'aveuglement des hommes et des femmes de peu de foi. Ce 13 octobre, cette année, ce sera un dimanche. Hein? C'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'émission de rencontre spirituelle le dimanche. Mais ce 13 octobre 1917, une foule attendait depuis l'aube sous une pluie battante. Il pleuvait terriblement. C'était effroyable à la Cova da Iria, à Fatima. 70 000 personnes sous la pluie. Un peuple immense qui pouvait préfigurer celui qui aujourd'hui y va toujours. 4 500 000 par année, dit le magazine Time. Magazine américain très répandu à travers le monde entier. Mais s'était formée cette foule d'éléments bien variés et bien disparates. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de paysans portugais. Bon, on a un mépris souvent pour les paysans. On croit qu'ils croient tout et qu'ils acceptent tout et qu'ils s'imaginent tout et qu'ils sont pas intelligents. Ce n'est pas vrai. Bon, mais pour plaire à certaines personnes, éliminons les paysans, s'ils veulent. Ils sont mêlés à de nombreux journalistes, ces paysans. Oui, des journalistes qui s'amusent, ont un plaisir fou, certains d'entre eux. Ils ont bien hâte de voir qu'il n'y aura rien. Il y a des savants aussi, oui. Chose étrange, parce qu'il faut dire que les foules se réunissaient depuis des mois, le 13 du mois. Il y a des avocats. Bon, il y en a qui sont pas brillants, des avocats. Des magistrats. On prétendra qu'il y a des magistrats qui sont pas brillants. Des artisans. Des industriels. Des étudiants. Des professeurs. Des ouvriers. Des techniciens. Des hommes politiques. Des médecins. Et même, il y a là des prêtres et des prélats de l'Église catholique, qui sont fortement prévenus contre les apparitions. Ce sont des prêtres et des prélats fort intelligents souvent, qui craignent que de fausses apparitions ne surviennent, que les gens se précipitent dans des choses abracadabrantes, insensées et contraires à la foi élémentaire de l'Église catholique, et qui veillent sur le simple bon sens, et ils ont bien raison. Donc, il y a là beaucoup de prêtres ecclésiastiques qui sont là, prévenus contre les apparitions, et qui ne croient guère qu'il puisse y avoir des miracles fantastiques qui seront vus par 70 000 personnes. Puis, il y a tous les incrédules aussi, des libres-penseurs, pour ainsi dire, professionnels, là, des gens acharnés qui vraiment ne peuvent pas croire. Hein? Pas les blâmer. Mon père était un peu comme ça dans un sens. J'ai un frère qui est comme ça, qui est plutôt agnostique, mais il est si bon. Vous savez, ces gens-là sont souvent très bons. Croire, c'est une grâce, c'est un don. Ne nous pensons pas plus fins que les autres, parce que nous croyons. Nous croyons, et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, c'est tout. Merci Seigneur, merci de croire. Alors il y a d'innombrables témoignages qui ont été recueillis ce jour et les jours suivants du 13 octobre, 1917. Le dossier de ce miracle solaire est devenu très lourd, c'est comme un immense lingot d'or. Je me bornerai à quelques rappels classiques. Je vous ai dit, je vous en parlerai plus longuement dans les moindres détails, probablement au mois d'octobre prochain. Un religieux qui a été témoin des prodiges de Fatima et qui a écrit plus tard à Monseigneur Teixeira. C'est cité par le fameux chanoine Barthas dans Fatima, merveille du XXe siècle. Le chanoine Barthas a écrit énormément. J'ai trois gros volumes, moi, de chanoine Barthas sur Fatima depuis des années dans ma bibliothèque. Et c'est fascinant à lire. Donc, ce religieux qui écrit s'appelle le père Ignace Lourenço Pereira, un Portugais. Il écrit qu'il avait 9 ans à peine, le jour du miracle. 9 ans, un garçon étant déjà assez intelligent à 9 ans, hein. Le 13 octobre 1917, il habitait un petit village, perché sur une colline. Oui, perché sur une colline face à la montagne de Fatima. Il a entendu au loin là, des clameurs, puis il est sorti de l'école avec l'institutrice puis les autres enfants. Et il a vu, lui qui n'était pas dans la foule, il dit, je regardais fixement l'astre, le soleil. Il me paraissait pâle et privé de son éblouissante clarté. Il semblait un globe de neige tournant sur lui-même, puis, tout à coup, il parut descendre en zigzag, menaçant de tomber sur la terre. Alors, autour de ce jeune témoin de 9 ans, les gens criaient, pleuraient leurs péchés. Et le miracle continuait de se déployer. Il écrit toujours à cet évêque, « Pendant les longues minutes du phénomène solaire, écoutez bien ça, c'est très important, les objets placés près de nous reflétaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Nos visages étaient tantôt rouges, tantôt bleus, tantôt jaunes. » Je vous ai dit tout à l'heure que ça ne pouvait être qu'une illusion, le soleil ne peut pas bouger. Tout le système solaire serait ébranlé, c'est évident. Mais il est tout de même étonnant que cette vision étrange suscite des rayons de lumière rouge, bleu, jaune. Dans le courant de son récit, d'ailleurs, le père Ignace Lourenço Pereira donne à Monseigneur Teixeira cette précision, affolé, absolument affolé. Je courus me mettre au milieu des gens. Tous pleuraient, attendant d'un moment à l'autre la fin du monde. À côté de nous, un incrédule qui avait passé la matinée à se moquer de ceux qui partaient pour Fatima était là comme paralysé, stupide, les yeux braqués sur le soleil. Je le vis ensuite qui tremblait des pieds à la tête. Et enfin, levant les mains au ciel, il tomba à genoux dans la boue du chemin, répétant « Sainte Vierge, Sainte Vierge !» Il ne pouvait dire que cela. Voici une autre relation assez impressionnante, c'est celle du docteur Carlos Mendez, qui était maire de Torres Novas, un juriste. Il l'a livré au chanoine Barthas, dont je viens de vous parler, ses souvenirs personnels du même jour. Il dit « Il pleuvait à torrents. Cela dura toute la matinée. Et voilà qu'au moment de l'apparition, sans savoir comment cela s'était fait, je me trouvais tout à côté des enfants, les trois petits voyants. Hein. Je ne sais comment me l'expliquer, car ma volonté était toujours de ne pas m'occuper de cette affaire. Un juriste, c'est un homme lucide, quoi. Les enfants étaient très recueillis. Je ne voyais qu'eux. Tout à coup, Lucia, la petite Lucie, dit « Regarde le soleil, Notre-Dame va se manifester. » Et alors les nuages se dispersèrent, laissant seulement quelques flocons traînant çà et là dans le ciel, et nous avons vu le soleil tourner sur lui-même comme une grande roue de feu, émettant des rayons de diverses couleurs. Mais ça confirme l'autre témoignage. Hein? Ce fut vraiment un moment indescriptible. Tout le monde se mit à genoux, on priait, on criait. Alors ce docteur Carlos Mendez ajoute qu'après la disparition des signes, et ayant pris Lucie dans ses bras pour la porter jusqu'à la route, à cause de la foule qui risquait de l'écraser, c'était une foule immense, il entendit cet enfant de 10 ans qui criait à la foule de toutes ses forces, « faites pénitence, Notre-Dame veut que vous fassiez pénitence. Si vous faites pénitence, la guerre finira. » En d'autres termes, tournez-vous vers Dieu. Tournez votre cœur vers l'amour. C'est ça que ça veut dire ce langage un peu d'autrefois, faites pénitence, qui est toujours valable aujourd'hui. Faire pénitence, c'est-à-dire cesser d'être égoïste. Ouvrez votre cœur. Faire pénitence, c'est pas simplement se flageller, je ne sais quoi. C'est se discipliner pour pouvoir mieux aimer, se donner, se sacrifier dans le bon sens du terme. Une mère ne se sacrifie-t-elle pas quand elle aime son enfant et qu'il pleure la nuit? Elle sacrifie son lit, elle sacrifie son bien-être, elle sacrifie son sommeil, elle sacrifie ses aises pour serrer contre elle son enfant qui pleure. Se sacrifier, c'est pas horrible, c'est grand, c'est beau. Mais encore, faut-il bien le comprendre et bien le vivre dans l'amour, avec le sourire aux lèvres, avec cette joie que Dieu nous donne jusqu'au fond de notre cœur. L'un des plus célèbres témoins de ce miracle fantastique reste sans doute M. Almeida, un incroyant notoire, qui n'a pas hésité à faire le récit du prodige solaire dans son journal « Libre penseur » « Au século »« Au siècle » si vous voulez, « Au século ». Voici un bref passage, très bref, du texte qui est fameux. Je vous le lirai au mois d'octobre. « Aux yeux étonnés de ce peuple, écrit-il, dont l'attitude nous transporte au temps biblique, et qui remplit d'effroi la tête découverte, regarde, parce que tout le monde a enlevé son chapeau, c'est évident, hein, devant le miracle. Ce peuple, la tête découverte, regarde l'azur du ciel. Le soleil a tremblé, le soleil a eu des mouvements lorsque jamais, des mouvements brusques, jamais constatés, et en dehors de toutes les lois cosmiques. Le soleil a dansé, selon l'expression typique des paysans. Je vous en donne un autre avant de vous laisser vous reposer un peu. C'est une scientifique, une femme. Non, ce n'est pas une scientifique, c'est un homme celui-ci, je me souviens, une femme aussi. Ça, c'est un homme de science, le docteur José Proença de Almeida Garrett. très renommé au Portugal, professeur à l'université de Coimbre, qui raconte ce qu'il a vu et entendu, Fatima, le 13 octobre 1917. Il insiste d'abord, lui aussi, sur cette pluie qui tombait depuis le matin, poussée par un vent sauvage, et sur la patience héroïque du peuple rassemblé, puis il disait, je voyais très distinctement le large cercle de la foule qui, avec ses parapluies ouverts, semblait un vaste parterre de boucliers. La pluie ne cessait pas, et le docteur de Almeida Garrett continuait de regarder, dit-il, le lieu de l'apparition, dans une expectative sereine et froide, avec une curiosité qui allait en diminuant, parce que le temps passait bien lentement, et puis sa patience fut récompensée de la manière la plus éclatante. Les yeux tournés vers le ciel, il vit apparaître un soleil lumineux et brillant, qu'il regarda sans fatigue. Donc, le 13 octobre 1917, survenu au Portugal, ce phénomène étonnant que j'essaie de vous raconter de façon la plus exacte possible d'après les documents les plus sérieux. Et là, je vous raconte ce qu'a vu le docteur de Almeida Garrett avec 70 000 autres personnes. Il dit que sa patience fut récompensée de la manière la plus éclatante. Les yeux tournés vers le ciel, il vit apparaître un soleil lumineux et brillant, qu'il a regardé sans fatigue. J'entendis, à Fatima même, faire la comparaison avec un disque d'argent mât. Voyez-vous, là, tout à l'heure, le petit garçon disait, c'était comme s'il y avait de la neige qui empêchait le soleil de lui blesser les yeux. Donc, un disque d'argent mât. Elle ne me parut pas juste. C'était une couleur plus claire, active et riche, et avec des chatoiements, tout comme l'orient d'une perle, hein? Une perle qui... une belle perle authentique, vous savez. C'est un chatoiement magnifique, hein? C'est irisé un peu. Hein? Et il ajoute, c'était une couleur plus claire, donc active et riche comme une perle. Il ne ressemblait en rien à la lune, dans une nuit transparente et pure, car il se voyait et se sentait comme un astre vivant. Le disque nacré avait le vertige du mouvement. Ce n'était pas seulement le scintillement d'un astre en pleine vie, il tournait sur lui-même avec une vitesse impétueuse, et de nouveau, on a entendu une clameur, comme un grand cri d'angoisse de tout ce peuple. 70 000 personnes, il y a des photos, j'ai des photos de tout ça. Conservant la rapidité de sa rotation, le soleil se détache du firmament et, rougissant, avance vers la terre, menaçant de nous écraser sous le poids de son immense masse ignée. Je vous rappelle que c'est évidemment pas le vrai soleil qui bouge, hein? C'est pas possible. Bon, soyons lucides. Hein? Il ajoute, ce médecin, ce furent des secondes d'impression terrifiante. M'occupant de fixer le soleil, j'ai remarqué que tout s'obscurcissait alentour. J'ai regardé ce qui était auprès de moi, puis j'ai allongé la vue jusqu'à l'extrême horizon. J'ai tout vu couleur d'améthyste. Les objets, le ciel et la couche atmosphérique avaient la même couleur. Un grand chêne violacé qui s'élevait devant moi lançait sur le sol une ombre épaisse. Alors donc, le prodige persiste, puis les signes se multiplient dans le ciel. Il raconte, continuant à regarder le soleil, je remarque que l'ambiance est devenue plus claire. À ce moment, j'entends un paysan qui, à côté de moi, dit sur le ton de l'ébahissement, « Mais madame, vous êtes jaune. » De fait, maintenant, tout a changé, prenant la nuance des vieux damas jaunes. Les gens paraissent malades, atteints d'ictère. Je souris de les voir ainsi laids et de si mauvaise mine. On entend des rires. Ma main a la même nuance jaune. En guise de conclusion, pour sceller sa narration là, du sceau de la vérité, là, ce professeur déclare à la fin tous ces phénomènes que j'ai cités et décrits. Je les ai observés avec un esprit calme et serein, sans une émotion ni un soubresaut. À d'autres, il incombe de les expliquer ou de les interpréter. Tels sont les faits. Pour tout homme de bonne foi, le miracle de Fatima, à mon avis, est absolument irrécusable. On connaît, moi, j'ai donc lu là-dessus les objections, là. Ce serait une perception purement subjective. Difficile d'admettre ça. D'autres parlent d'autosuggestion, d'hallucination collective. Mais voyons. Voyons. C'est invraisemblable. Est-ce qu'il suffit... Il suffit, me semble, de rapporter ce que le chanoine Barthas évoque dans ses ouvrages, quand il cite les documents officiels, témoigne, j'ouvre les guillemets, que le grand prodige fut aperçu jusqu'à 4 ou 5 kilomètres de distance de la Cova d'Airia et par des gens qui ne partageaient nullement l'attente ni les émotions de la foule, comme le petit garçon du début qui était dans son école, qui est sorti avec son institutrice, je vous l'ai raconté. En 70 000 témoins, parmi eux, je le répète, il y avait des athées, des membres de sectes anti-religieuses, des journalistes libres-penseurs, puis de simples curieux. Ils ont tous vu le phénomène de la danse du soleil, après tant de témoignages recueillis, est inexplicable par des causes naturelles. On peut pas. Les hommes avaient besoin d'un signe, puis le signe est venu. Dieu nous donne des signes. Qu'en fait-on de ces signes? Grand Dieu, comment se fait-il? Évidemment que l'Église ne fait aucune obligation, je vous le répète. Nous ne sommes pas obligés de croire à la réalité du miracle. Je note aussi, il me semble que si Dieu nous envoie de telles grâces, maintenant, si refuser ces grâces-là, ce ne serait pas une forme de péché qui est condamné formellement par le Seigneur de l'Évangile. Je m'inquiète. Hein? Je ne dis pas que c'est ça, mais je m'inquiète. En tout cas, je plains les gens qui ont les yeux secs, les fronts butés, le cœur aride. Il me semble que chacun doit voir et juger selon les lumières de sa conscience, les exigences de son âme. Évidemment, le reste, c'est l'affaire de Dieu. Je voudrais passer, avant de terminer, sur le message de Fatima. C'est le cardinal Cerejera, patriarche de Lisbonne, qui a parlé en français à Rome le 11 février 1967. Il dit l'essentiel du message, c'est la conversion. La rénovation chrétienne. Comment? Par la pénitence, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, et la prière. La délivrance du péché et la vie dans le Christ. Par la grâce. Et qu'est-ce que la grâce, si ce n'est que l'Esprit Saint lui-même, Dieu lui-même, qui transforme nos cœurs. Cette naissance nouvelle de l'homme, dit le patriarche de Lisbonne, on l'appelle patriarche comme le patriarche de Venise, c'est les archevêques, quoi. Cette naissance nouvelle de l'homme qui le transforme et le transfigure par le Christ, n'est-ce pas l'œuvre et la fin de l'Église, le but de l'Église? De la venue du Christ, dans un mot, de la rédemption. Tout le contenu du message est pour cela. Ce qu'il dit, ce qu'il demande, ce qu'il promet. Les mots prononcés par Notre-Dame répètent l'appel interrompu de l'Église. Mais venu du ciel, ces mots remuent le monde entier des consciences. Ils sont un cri miséricordieux du cœur immaculé de notre Mère Céleste pour le salut de l'humanité. Il y a des mots comme ça, comme le cœur immaculé de Marie, il y a des gens, ça les irrite. Et pourtant, c'est très beau. Le cœur, c'est le centre mystique de l'âme, presque. C'est un mot qui est un symbole, un signe. Et ça vient en grande partie de l'Ancien Testament. Le sang dans l'Ancien Testament, c'est l'âme. Je vous l'ai déjà expliqué. Et c'est pourquoi les gens qui sont très, très, très près des textes bibliques ne veulent pas avoir de transfusion sanguine de crainte d'avoir recevoir l'âme de quelqu'un d'autre, comme les témoins de Jéhovah font ça. Or, cette foi trop littérale, à mon avis, ne tient pas debout. C'est pour avoir une foi mystique et voir dans le cœur qui répand le sang dans tout le corps. Le cœur est le centre de l'âme. D'où vient l'amour? Et le cœur bat plus fort quand l'âme aime. Et quand le Christ a le cœur transpercé, Quand le cœur est transpercé, il répand son âme. À Fatima, la Vierge Immaculée, s'est nommée la Dame du Rosaire. Il y a toujours un mystère dans le choix d'un nom, quand ce choix provient de Dieu. Il faut tout d'abord, dit l'évêque, noter que ce nom, Notre-Dame du Rosaire, est associé depuis Saint-Dominique aux grandes batailles contre les ennemis de l'Église, et de grands papes n'ont pas hésité à lui attribuer des victoires. N'y aura-t-il eu dans l'histoire de batailles plus universelles et totales que celle qu'a menée l'athéisme marxiste durant ce siècle? Tout semble faire croire à une mission vraiment grandiose du fait de Fatima. En vérité, à Fatima, tout collabore au message de Notre-Dame du Rosaire. Et la nature qui se mue, le miracle du soleil, dont je viens de vous parler longuement pour que vous l'ayez bien dans la tête, et le ciel qui s'émule, l'évêque dit ça, il veut parler des anges, de l'apparition de Saint-Joseph avec l'enfant Jésus, le Seigneur bénissant le monde, c'est des apparitions dont je ne vous ai pas parlé, mais je vous reparlerai un jour. Eh bien, l'évêque de Lisbonne dit, le contenu du message est très riche, et peut-être n'a pas dit son dernier mot. Ce sont des faits religieux puissant. Puis il dit, il ne faut pas oublier la coïncidence des apparitions de Fatima avec la révolution russe, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, qui se proposait, cette révolution, de construire un homme nouveau et un monde nouveau sans Dieu, méconnaissant le péché, la grâce, la rédemption puis le Christ. C'est ce que les soviétiques ont essayé de faire. Et il ajoute, à Fatima, elle se pose ouvertement, la Vierge puissante, à tout l'athéisme de nos jours, et éclaire la tragédie du monde actuel en révélant le sens secret, oui, le sens secret des grands événements dont nous sommes témoins et agents, et en indiquant les moyens de salut. Et le message, dans le fond, est très simple, comme l'Évangile. Alors Lucia, Lucie, la voyante, dira, c'est très important, « Je pense que le Seigneur a voulu se servir de moi, tout simplement, pour rappeler au monde la nécessité d'éviter le péché. » Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ne croient plus nécessairement au péché. Éviter le péché, c'est éviter de blesser ce cœur plein d'amour de Dieu. En trahissant Dieu, en choisissant nos plaisirs qui ne sont pas selon les simples lois de la nature et du bon sens. Tuer, avorter, euthanasier, réduire à néant par nos paroles cruelles la réputation de quelqu'un, nuire aux autres, répandre l'horreur, voler, commettre des adultères qui font que les couples se séparent, se blessent, les enfants perdent leur père ou leur mère à cause des adultères, les enfants sont eux-mêmes profanés et blessés. Tous ces péchés, mais ce qu'il y en a, ce que l'homme a de l'imagination pour en faire, et nous sommes tous coupables. Bien, c'est ce qu'elle dit, Lucie. Rappeler au monde la nécessité d'éviter le péché et d'offrir des réparations pour les offenses à Dieu avec la prière et la pénitence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, réparer? J'aimerais mieux consoler. Offrir des gestes d'amour au lieu des réparations. C'est ça que ça veut dire. Prouver son amour par des actes à Dieu pour le consoler. Non seulement le priant. C'est nécessaire. On ne peut pas vivre sans aimer Dieu et sans le consoler. On dirait, il n'a pas besoin de consolation, il est perpétuellement heureux, mais non. Le message de Fatima, Notre-Dame l'a résumé, avant de monter au ciel dans ces mots-là, « N'offensez plus notre Seigneur. » C'est ce que dit le patriarche de Lisbonne. Elle a rendu à ceux qui croient l'arme victorieuse, ce serait le rosaire. Et c'est l'arme de la paix que son divin fils peut donner. Il va sans doute, obligatoire de rappeler que au cœur de la prière de l'Église, il y a l'Eucharistie, la messe. Le patriarche de Lisbonne ajoute, et c'est très important, « J'ai figuré au nombre de ceux qui, de prime abord, ont refusé de prendre en considération ce fait miraculeux. » Ce patriarche ne croyait pas à Fatima au début. Il ajoute, « Professeur d'histoire, autrefois, au cours de mon enseignement d'histoire médiévale, il m'était arrivé de mettre à néant la légende de prétendus miracles. Mais Fatima s'impose par l'évidence d'une action surnaturelle, qui, je ne crains pas de l'affirmer, ne saurait que difficilement trouver son parallèle dans l'histoire des interventions mariales. » Il ajoute, c'est intéressant, « Le grand poète chrétien Paul Claudel a qualifié « irruption brutale » la manifestation de surnaturel à Fatima. » C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est ce que Paul Claudel dit. Cet évêque du Portugal, de Lisbonne, le patriarche, dit « À mon sens, l'actualité de Fatima peut se traduire par trois remarques principales. En premier lieu, à une époque qui affecte de nier radicalement son existence, eh bien, Fatima offre une merveilleuse manifestation du monde surnaturel. Le monde surnaturel existe, et nous l'affirmons dans le « Je crois en Dieu », quand on dit qu'on croit au monde visible et invisible. Pour la première fois dans l'histoire, dit le patriarche, pour la première fois dans l'histoire, à l'égard de tout ce par quoi se définit l'existence de Dieu, eh bien nous voyons l'athéisme militant prendre l'aspect d'une menace redoutable qui prêche et au besoin s'efforce d'imposer par les armes la conception matérialiste totale du monde et de l'homme. Et c'est ainsi qu'on a pu voir cette force s'effondrer, mais elle existe toujours, hein? Elle n'est pas disparue. Le matérialisme de nos pays est encore là, qui lutte contre Dieu. Et l'évêque ajoute, « En notre temps d'athéisme matérialiste, Fatima vient nous démontrer d'éclatante manière que le monde surnaturel existe. » C'est ce que j'essayais de vous montrer aujourd'hui. Fatima nous le prouve de façon visible, quasi tangible, irrécusable et même criante. L'absurde et arbitraire négation du surnaturel, formulée au nom de la raison et de la science, eh bien Fatima l'anéantit par le fait réel, expérimental, répété tant de fois sous des formes si diverses, partout où se rend d'ailleurs l'image de Notre-Dame, qu'accompagne un inégalable cortège de prodiges et de grâces. Vous savez que les grâces qui entourent cette étrange statue un peu mièvre et pas très belle de Notre-Dame de Fatima sont surprenantes. Et deuxièmement, l'évêque ajoute que Fatima révèle à tous ceux qui ne croient qu'à la science et à la technique pour la construction d'un monde nouveau le secret profond de l'histoire humaine. Oui, Fatima révèle ce secret profond de l'histoire humaine, nous apportant ainsi par une voie dramatique la confirmation et l'illustration de ce que la foi chrétienne nous a fait connaître. Non seulement la preuve nous est fournie que le monde surnaturel existe, tel que le définit le christianisme, mais aussi que son influence s'exerce sur l'histoire. C'est très important. Très important. Alors, beaucoup d'hommes confessent l'absurdité des exigences de ce monde matérialiste. Ils avouent leur angoisse, leur accablement. Mais je crois que s'ils se tournaient un peu vers ces choses qui nous semblent un peu curieuses, bonnes pour des gens très pieux, ça n'est pas fait pour des gens très pieux. Je vous ai cité des documents d'hommes sérieux, des hommes de science. Alors à la prière puis à la pénitence, Fatima a promis le salut et la paix, dit l'archevêque de Lisbonne. Aujourd'hui, non plus que jamais, l'avenir des chrétiens est désespéré. Ils savent bien Et Notre-Dame est venue leur rappeler que par leur conversion, ils peuvent se transformer en de nouvelles créatures et que par la prière, ils peuvent mobiliser en leur faveur le pouvoir de Dieu. Quand on colle son cœur contre celui de Dieu, notre cœur bat au même rythme que celui de Dieu. Et quand notre cœur bat comme celui de Dieu, tout se transforme autour de nous. Les saints l'ont prouvé. Les saints irradient l'amour. Mais c'est pourquoi Dieu peut dire « Enfin, mon cœur triomphera. » Oui. Fatima se lève dans notre monde comme un phare d'espérance contre le communisme athée qui a prétendu conquérir l'univers et détruire l'Église. Et l'évêque ajoute, « Je sais bien qu'on a mis en doute ce qu'on appelle le cas de Fatima. » Et il dit, « Quelle raison évoque-t-on pour justifier ce processus psychologique d'évolution ?» Il dit, est-ce qu'on a tenu compte du caractère et des conditions de la vie de la voyante? Non. Tout se serait produit sous le choc du déroulement des événements mondiaux, dit-on. Mais cependant, les gens qui connaissent Lucie la dépeignent comme une solide paysanne très positive, très précise, très volontaire. Les événements mondiaux de la guerre et puis de 1917, c'est pas ça qui a fait imaginer dans la tête de cet enfant des affaires. On l'a bien vu tout à l'heure par les phénomènes que je vous ai rapportés. Alors, qu'aurait dit Notre-Dame le 13 mai, oui, le 13 mai 1917, dans le secret gardé le plus tard, jusqu'en 1938, qui se rapporta aux événements mondiaux, et en voici le résumé, une autre guerre pire que la première de 14-18. La Russie répandait alors ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, et plusieurs nations ont été supprimées, même en 1942. Tout ceci, sauf la réalité de la guerre, serait imprévisible et même impensable, mais, ajoute cet évêque, je peux ajouter que l'imminence de cette guerre, avec sa violence et son extension, fut communiquée à l'évêque de Leiria, c'est l'évêque du lieu, Fatima, 7 mois avant son commencement. Et en effet, j'ai eu dans ma main la lettre du 6 février 39, donc avant la guerre de 39-45, où la voyante disait « imminente la guerre prédite par Notre-Dame » et promettait la protection de Notre-Dame au Portugal. Et c'est ce qui est arrivé. Quand on parle de punition aussi là-dedans, c'est une façon très ancienne de parler. On dit que l'Espagne a été punie, que le Christ va punir le monde. C'est un langage aberrant à mes oreilles que je ne peux souffrir personnellement. J'ai beaucoup de difficultés avec ce langage. Mais qu'il soit bien dit que c'est pas Dieu qui punit. C'est nous-mêmes qui nous punissons par nos propres fautes. Nous faisons des choses qui sont invraisemblables et nous en récoltons des choses terribles. Et c'est ainsi que je peux lire dans un livre très intelligent l'idée de réparation pour éviter les drames est aussi ancienne que le christianisme et l'évangile pour éviter d'être puni, n'est-ce pas, comme on dit, dans ce langage qui vient un peu de l'Ancien Testament mais qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. J'aimerais mieux qu'on dise, si vous vous conduisez mal, vous vous détruirez les uns les autres. Et on l'a bien vu au Rwanda. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas Dieu qui a fait ce drame. C'est les hommes et les femmes. Mais depuis la grande révélation de Paris-Monia que je lis ici, il est évident que l'idée de réparation prend une forme toute spéciale. Dans le cas splendide de la dévotion au Sacré-Cœur, la doctrine réparatrice a acquis un relief, une importance dans la vie des âmes qu'elle n'avait pas eue auparavant. Et même plus depuis Marguerite Marie Alacoque, celle qui a eu des visions à Paris Monial il y a des siècles, eh bien, elle offre, cette doctrine réparatrice, offre certaines nuances extrêmement profondes et délicates qu'on n'avait pas remarquées jusqu'alors, du moins au même degré. nous pouvons affirmer que la réparation est un élément indispensable dans la doctrine du cœur de Jésus, et plus encore, étant donné le déséquilibre produit par le péché, la réparation devient un élément inséparable de la parfaite charité. C'est l'amour qui fait la réparation. Voilà ce cœur, dit Jésus, qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Ce qui m'est beaucoup plus sensible que tout ce que j'ai souffert en ma passion, d'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage, mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements leur faire du bien. Du moins donne-moi ce plaisir de supplier à leur ingratitude autant que tu en pourras être capable. C'est donc des preuves d'amour que Dieu veut, la conversion du cœur, comme on dit dans la Bible. Les crimes des méchants se multiplient. Les gens mauvais l'outragent d'une manière horrible, on le voit ici à Montréal. Et non seulement par eux, l'amour n'est pas aimé, mais il est insulté, bafoué, blasphémé. Et Jésus dit, n'y aurait-il personne qui ait pitié de moi et qui veuille compatir et prendre part à ma douleur dans le pitoyable état où les pécheurs me mettent, surtout à présent? Et dans ce livre du Père Matteo Crowley-Beauvais, qui est très beau, je vous assure, surprenant ma mère, c'est un livre qui appartenait à ma mère, « Apôtre du Sacré-Cœur, que répondrez-vous à ces outrages et à ces plaintes? Et écoutez bien ça, vous aimerez Jésus jusqu'à la folie. La grande réparation, c'est l'amour. » Et oui, la grande réparation, c'est l'amour, c'est rien d'autre. Et on l'a bien vu, quand un 13 mai, il n'y a pas longtemps, le Portugal s'est payé le mariage du siècle dans le monde de la monarchie, quand le Portugal, le prince héritier du Portugal, Don Duarte, a épousé Isabelle de Heredia, la cérémonie a eu lieu au monastère des Hieronymos, Hieronymiens, que bien des Canadiens ont visité pendant un séjour à Lisbonne. Eh bien, on a demandé à la princesse Isabelle si elle aimerait être reine un jour, et elle a répondu avec son ravissant sourire, « Depuis Yao IV, qui lui a consacré son pays, la seule vraie reine du Portugal, c'est la Vierge Marie. » C'est étonnant de voir des paroles comme ça sortir de la bouche de ces gens beaux, puissants, couronnés. Ça donne un peu d'espoir. Alors en ce jour, je vous rappelle que si on doit se convertir, c'est par amour. Si on doit accepter nos souffrances, c'est en les enveloppant d'amour et de reconnaissance envers Dieu.